Avoir retiré les enfants à ma fille, oui, c'était nécessaire. Ça, on est d'accord. Le côté noir, c'est le placement. On rencontre l'enfer en face.
Dans ma famille, pour pas se prendre de coups, il fallait être transparent. Donc, en foyer, je me suis dit, pour pas avoir de problème, la seule solution pour moi, c'était de faire partie du décor, de devenir complètement invisible.
Il n'y a pas de solution toute faite dans des situations comme ça. On ne pourra jamais rentrer un enfant dans un dispositif. Donc effectivement, on va beaucoup bricoler pour essayer d'être au plus près des besoins et pour apporter la meilleure réponse possible.
Souvent, c'est une maîtresse, un médecin, une assistante sociale qui donne l'alerte. Parfois, ce sont aussi de simples témoins, car tout adulte doit, la loi le précise, signaler aux autorités publiques l'existence d'un enfant maltraité ou délaissé. Se met alors en branle tout un mécanisme d'aide, système complexe avec forcément ses lourdeurs administratives, dont l'objectif est de protéger le mineur, de soutenir son développement, dit le Code d'action sociale, physique, affectif, intellectuel, de préserver aussi sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation. L'aide sociale à l'enfance, l'ASE, ancienne DAS, travaille donc au plus près des familles pour repérer les dangers, aider les parents dans leur rôle éducatif, tenter de ne pas rompre les liens et protéger avant tout les petits, en bonne entente avec le juge pour enfants. En tout, les départements dépensent 7,7 milliards d'euros pour l'ASE. En 2015, 325 000 prises en charge étaient en cours, ce qui veut dire que 2 mineurs sur 100 sont suivis par l'aide sociale à l'enfance. Dans la moitié des cas, ces enfants sont aidés dans leur milieu, ils ne quittent pas la maison. Pour les autres, ça va d'un placement en famille d'accueil, aux pouponnières, internats ou autres maisons d'enfants à caractère social. L'objectif est de travailler sans relâche au retour du jeune dans sa famille, si c'est possible. Depuis les réformes de 2007 et 2016, l'intérêt supérieur de l'enfant, ses droits fondamentaux, prime. Mais il n'est pas toujours facile de faire la part des choses, de mesurer les risques et d'accompagner les enfants meurtris pour en faire des adultes autonomes. La protection de l'enfance à l'épreuve du quotidien, c'est un magazine signé Aurélie Kiefer. Pour écouter ce magazine de la rédaction, nous avons invité Jean-Paul Raymond. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de la DASES, la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé à Paris, qui est à la fois ville et département. Et nous sommes avec Nadège Sévrac. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé au laboratoire CERLIS, qui est le centre de recherche sur les liens sociaux à l'université Paris-Descartes. Et vous êtes aussi consultante spécialisée dans les questions de maltraitance intrafamiliale. Et nous sommes bien sûr avec Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir.
En 2016, Aurélie, une nouvelle loi a été votée pour réformer la protection de l'enfance. Elle a placé l'enfant, je le disais, au centre du dispositif.
Oui, cette loi insiste sur la prévention et sur le repérage des situations préoccupantes. On s'est rendu compte que les interventions étaient parfois tardives, quand beaucoup de mal avait déjà été fait. Or, les deux premières années de vie sont fondamentales dans le développement d'un enfant. On a aussi mesuré l'impact des ruptures dans les parcours des enfants, séparés de leur famille pour aller dans un foyer, puis dans une famille d'accueil, puis dans un autre foyer. À chaque fois, c'est très déstabilisant. Il y a également cette volonté de mieux respecter les droits des enfants, notamment le droit de participer aux décisions qui les concernent. En amont de cette loi, la ministre Laurence Rossignol avait organisé une concertation et à cette occasion, j'avais rencontré Magali Panova qui avait apporté son témoignage d'ancienne enfant placée. Je m'étais promis que j'irais la voir chez elle près de Carhaix, dans le Finistère. Je voulais savoir comment elle s'en sortait dans la vie quotidienne avec sa famille puisqu'aujourd'hui elle a 38 ans, une maison, un mari et un fils de 8 ans et demi, Ruslan. Magali a derrière elle une histoire difficile, famille d'accueil à 5 ans, retour chez sa mère qui continuait de la négliger et de la frapper. Et quand la petite fille a commencé à rendre les coups, elle a été placé en foyer.
On écoute votre reportage.
Ma mère, elle m'a dit un jour, de façon très... Bon, c'était comme ça à la maison, c'était uniquement de l'information, elle m'a dit « Habille-toi, on sort ». On est descendu en bout de la rue, il y avait un bâtiment, c'est les magnifiques bars des années 70, l'aide à mourir. Et en bas, souvent, t'avais des bureaux, des trucs comme ça. Et là, t'avais une porte marquée assistante sociale, donc elle toque, on rentre. La nana, super jolie, tu sais, petit carré noir, joli rouge à lèvres, très souriante, canon. Et quand elle a commencé à saluer ma mère, à lui poser des questions, j'ai compris qu'en fait, c'était pas la première fois qu'elle se voyait, en fait. Donc là, déjà, je me suis dit, tiens, c'est qui elle ? Parce qu'assistante sociale, franchement, je voyais pas bien ce que ça pouvait être, quoi. Et quand elle a commencé à demander à ma mère, alors, madame Bat, vous en avez parlé, toutes les deux ? Vous avez pris votre décision ? C'est parti, on y va ? Je suis, oula.
Je ne sais pas de quoi, hein.
Franchement, je me suis sentie, mais j'ai cru que j'allais vomir. J'ai dit ça pue quoi. Puis elle s'est retournée vers moi et puis elle me fait Viens, Magali, alors comment ça va ? Donc c'est bon, t'es d'accord pour aller en foyer ? Tu vas voir, ça va vous faire du bien toutes les deux. Voilà. Prends-toi selon les noms.
Bah, si t'avais pas été préparée avant, effectivement, c'est
non.
Un peu violent.
Et justement, c'est là où j'ai compris qu'en fait, à la précédente discussion, j'imagine que l'assistante sociale avait demandé à ma mère de m'en faire part, d'en discuter avec moi. Et en fait, elle l'a pas fait du tout, quoi. Et une fois que t'es devant le fait accompli, qu'est-ce que tu veux dire entouré de deux adultes en qui t'as pas confiance?
Mais
alors tu
quel
fais
âge,
quoi? J'avais une dizaine d'années. Là, tu te retrouves là.
Pour
comprendre que tu te fais gentiment jeter, en gros, on est en train de te dire que ta mère a tellement peu de considération pour toi qu'elle estime même pas nécessaire de t'informer de ce qui va se passer pour toi, qu'elle te jette sans préavis, et qu'en plus, la nana en qui t'es censée devoir avoir confiance, donc la nana qui est censée te protéger, l'assistante sociale, elle a même pas fait son boulot en avant en vérifiant que ma mère avait bien fait son taf au lieu de le mettre devant le fait accompli. Donc là, quand t'es môme, t'as quoi comme choix? T'as soit tu dis « Ah non, je veux pas. Ma mère, elle m'en a pas parlé. » Choix numéro 1. Qu'est-ce qui se passe? Une fois que t'es rentrée à la baraque avec la daronne, qu'est-ce qu'elle fait? Non seulement tu te prends une torgnole, mais d'enfer comme t'as probablement jamais pris de ta vie, et n'importe comment, 15 jours plus tard, rebelote, tu retournes dans le bureau et ça revient sur la table et tu dégages quand même. Et en plus, elle sera contente parce qu'elle aura eu le dessus. Ou alors, tu fais genre « Pas de souci. » Tu fais juste le sourire pour le rendre à la dame et tu dis oui. Pour au moins avoir ce dernier, comment dire, que toi tu mettes le point final là-dessus et que tu dises ok, pas de problème, tu me jettes, no suicide. Moi je vais me gérer toute seule et toi va au diable. Et à partir de ce moment-là, moi j'ai pris la décision, ok, t'as fait ça, parfait, tu me reverras plus jamais quoi. Privet, mon mari. Bah Idriss, ni est ta boy? Bah vas-y, mais où?
Et on y grête.
Magali est restée en foyer jusqu'à sa majorité. Elle, qui adorait l'école, a été longtemps déscolarisée. Aujourd'hui, elle porte un regard très critique sur les juges et les éducateurs. Elle estime qu'on ne l'a pas écoutée, pas aidée.
J'ai vraiment eu l'impression d'être une potiche, c'est-à-dire un objet qu'on prend à un endroit et qu'on envoie ou qu'on pose sur une étagère. Et puis voilà, c'est sa nouvelle place et on ne se pose pas la question de savoir si c'est la bonne ou pas. Il y avait des choses, visiblement, qui étaient quand même inscrites dans un dossier quelconque, que j'ai reçu partiellement d'ailleurs, mais tout ce qui avait été écrit au niveau des entretiens entre l'assistante sociale et ma mère ne concernait que ma mère. Il n'y avait que des bribes, en fait, me concernant, genre mon âge, mon apparence physique, la façon dont je m'exprimais. Mais c'était tout, et quand je suis arrivée en foyer, les éducateurs n'ont jamais fait un travail pour voir si... il n'y avait pas d'autres informations de mon point de vue que j'aurais pu apporter. Et il y en avait beaucoup.
On ne vous a pas posé de questions et vous-même, vous n'avez rien dit.
Bah, c'est compliqué après, je veux dire, pour s'ouvrir. Déjà, le fait que j'étais complètement désocialisée, enfin asociale même, ça fait qu'on n'est pas forcément enclin d'entrée de jeu comme ça à entamer une conversation. Que les signes qu'on pourrait donner pour qu'on vienne nous voir, par exemple, ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on attend d'un enfant qui a des codes sociaux, quoi. Ce qui fait que moi, je pouvais très bien rester dans une pièce pendant des heures, debout, à attendre que quelqu'un vienne me voir, sauf que si on venait pas me voir, moi, j'étais incapable de faire autre chose que d'être debout et d'attendre qu'on vienne me solliciter. Les éducateurs n'ont pas su décrypter, en fait, ces codes-là, qui étaient forcément, oui, un peu différents, peut-être, de ceux qui étaient... des autres enfants qui étaient là, mais c'était mon mécanisme, moi, je connaissais que ça. Je veux dire, je savais que, dans ma famille... pour pas se prendre de coups, pour pas être la cible d'agressions, même verbales, il fallait être transparent, être complètement, faire partie du mur, quoi. Donc, en foyer, je me suis dit, pour pas avoir de problème, la seule solution pour moi, c'était de faire partie du décor, de devenir complètement invisible. Pour devenir transparent, qu'est-ce qu'on fait? On suit scrupuleusement les règles du lieu où on se trouve. Bon, bah ça, de toute manière, quand on arrive en foyer, on vous explique les règles. Il y a des règles de fonctionnement, les heures de sortie éventuelles, des tâches ménagères à accomplir, des roulements, des choses comme ça. Tant que vous les faites, on n'a rien à vous reprocher. Si on n'a rien à vous reprocher, on ne pense même pas à vous. Donc c'est très bien. Donc j'avais très bien assimilé ça. J'étais un parfait petit soldat et je me tenais rigoureusement à faire toutes ces tâches, tout ça. Et à ne jamais rien demander.
Mais non, c'est de la crème, chérie, pour le pain.
Il n'y a pas de pain.
On attend papa, ça prend 2 minutes à cuire.
Les foyers que Magali fréquentait il y a 20 ans en Lorraine n'ont pas grand-chose à voir avec la Mex du Vésinet dans les Yvelines. Mex comme maison d'enfants à caractère social. Cet établissement, géré par la Fondation Apprenti d'Auteuil, accueille des enfants de 3 à 12 ans dans un cadre chaleureux. Et ici, l'écoute semble une priorité.
Suivez-vous, vous voulez. Mais vous vous battez pas de pour avoir là.
Oui, mais il
faut. Donc... alors, maison qui vit, comme vous pouvez voir. Elle est en deux parties.
première partie, on a tout le rez-de-chaussée où là, on accueille, enfin, j'accueille les familles en visite médiatisée ou en rencontre atelier.
Christine Delettre, chargée du service d'accompagnement des familles, cherche à favoriser les liens parents-enfants.
À partir du moment où il n'y a que des visites médiatisées, c'est qu'il a été estimé par le juge. Donc là, on est bien dans un cadre judiciaire, hein. On n'est jamais dans un contrat avec les parents. Donc c'est une mesure qui s'impose, qu'il y avait à un moment donné danger ou risque pour l'enfant d'être seul avec le parent. Donc effectivement, c'est coercitif. C'est quelque chose d'extrêmement intrusif dans la relation du parent et de l'enfant. Ça permet aussi un travail. Ça permet aussi justement cette sécurité qui peut éviter que la relation continue de se détériorer entre le parent et l'enfant. Tant que faire se peut, j'essaye systématiquement à la fin de chaque visite médiatisée de prendre un temps, si court soit-il, hein, avec le parent ou les parents présents, juste pour leur dire, voilà, moi pendant cette visite-là, et je ne leur parle pas d'eux, hein, je leur parle de moi. Pendant cette visite-là, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai pu constater, voilà les choses qui fonctionnent bien, et il y en a, et voilà ce qui ne fonctionne pas, et voyez, quand votre enfant a dit ça, ça, votre réaction, ça a été celle-ci, c'est un petit peu difficile à recevoir pour votre fils, pour votre fille. Les parents sont beaucoup plus à l'écoute de ce que moi j'ai pu ressentir que de verbaliser eux. Alors comment ça s'est passé? Racontez-moi. Non, ils n'ont pas du tout envie de raconter, mais alors pas du tout. Voilà, tout sauf ça. Donc partir sur des constatations, quitte à dire n'importe quoi, Madame Delettre, c'est pas du tout ça qui s'est passé, vous avez rien compris, de toute façon les travailleurs sociaux ne comprennent jamais rien, etc., etc. Et là c'est bon, la relation elle est enclenchée, elle est amorcée, même si c'est sur de la négation, du conflit, du refus. Peu importe, il y a de la relation. Et la visite d'après, et on revient dessus, et voir par téléphone entre deux visites, voir un entretien seul, sans l'enfant, pour remettre tout ça à plat. Enfin voilà, il y a un tas de choses ensuite qui peuvent apaiser, mais l'essentiel, c'est de créer le lien. Le pire, c'est quand rien ne se passe. C'est rare. C'est très très rare. Mais c'est très compliqué.
Comment vas-tu? Tu fais du jardinage avec Alexandre, c'est ça?
Oui.
Ok.
Pas de bêtises, hein, Gaëtan.
Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais avec les tuteurs de mes arbres?
Hein? Il n'était pas sur l'arbre?
Bah oui, mais c'est qu'il a été enlevé, c'est un peu embêtant parce qu'après ils vont pousser de travers. C'est pas bien quand on pousse de travers. Qu'est-ce que t'en penses?
Oui.
Bah oui. T'essayes de trouver un arbre pour qu'il puisse pousser droit et on dira c'est l'arbre de Gaëtan. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais.
Allez, vas-y, je te laisse choisir celui que tu veux.
Christine Delettre a mis en place un café des parents et elle cherche tous les outils permettant de travailler la relation parent-enfant, comme des séjours vacances très encadrés.
On est quasiment un éducateur pour une famille. Donc on fait un travail de proximité relationnelle et non pas de distance professionnelle, je tiens à la notion, avec les familles où chacun reste, la famille reste la famille, on reste professionnel, mais le lien qui se crée en étant quasiment 24 heures sur 24 ensemble est totalement différent d'un point de vue efficacité professionnelle, puisque c'est en live direct qu'on peut tout de suite agir, ou que les parents peuvent aussi interagir avec nous sur un acte, une attitude, une question par rapport à l'enfant. C'est vraiment sur des actes de la vie quotidienne, sur on se lave les mains avant de passer à table, sur et que ça ne doit pas partir au conflit, sur des choses aussi basiques, aussi simples. C'est juste vivre ensemble, c'est juste des règles, des codes, le respect de l'autre aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent se gérer à ce moment-là. Après, tout n'est pas rose. Hein. Après, tout n'est pas rose. Il y a aussi des moments où c'est tendu, il y a aussi des moments où on sent que les parents n'y sont pas et que là, il faut plus qu'accompagner, il faut étayer, il faut être avec, il faut faire parfois à la place sur certaines choses. Un bébé de 18 mois en haut des marches et maman en bas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc attention, là il y a danger. Forcément, on aide l'enfant à descendre et on reprend tout de suite avec la maman en disant « Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que vous étiez en bas et non pas « C'est pas bien, il faut pas », etc. C'est, qu'est-ce qui s'est produit pour qu'on se soit retrouvé dans cette situation-là? Qu'elle-même puisse se dire « Ah, si ça se reproduit, je dois être vigilante. Ah, et pas c'est de ma faute si mon gamin a failli tomber. On n'est pas du tout là-dedans. Voilà, c'est comme ça qu'on essaye de travailler.
Enfant placé, enfant sacrifié, ça suffit. C'est le titre choc d'un livre paru en avril aux éditions Michelon. Une grand-mère, dont les petits-enfants ont été placés pendant un an, y livre son témoignage sous le nom d'emprunt de Jeanne Landry.
Donc, j'ai trois chambres. Donc là, celle-ci était destinée à ma petite-fille. Et celle-ci, voilà, était pour mon petit-fils. Donc des espaces bien séparés où il pouvait effectivement être accueilli sans problème. Hein. J'avais suffisamment de place pour que je puisse les accueillir en toute tranquillité, en sachant que la maison est à côté des écoles, donc à pied. Le médecin, c'est l'endroit où je souhaitais les accueillir et où on m'empêchait de le faire. Un peu trop propre. Quand l'éducatrice est venue, elle m'a bien dit oh, « Vous avez un canapé blanc ?» Mais comment vous allez faire avec les enfants ?
La fille de Jeanne passe par des périodes de grande angoisse et elle souffre de dépression. Dans un premier temps, la jeune femme et ses deux enfants ont bénéficié d'une mesure éducative.
Alors, la mesure éducative, donc l'AMO s'est mise en place trois ans, je pense. Parce que ma fille avait des problèmes de santé, elle était très, très angoissée. Et puis, quelquefois, il y avait besoin d'hospitalisation courte. Et peut-être trop courte, pour apaiser les angoisses et puis reprendre le cours de la vie. Alors, il y avait une éducatrice qui venait une fois par mois. On dit que c'est de l'aide aux familles, mais il n'y en a pas dans le sens où on entend aide aux devoirs, aide au ménage, aide dans les tâches matérielles. Non, elle s'assoyait, elle discutait. Et puis, moi, ce que j'ai pu constater, parce que j'ai eu l'occasion de la rencontrer, cette dame, c'est que ça s'est bien passé pendant quelques temps. Et puis ma fille un jour a pas été bien, il se trouve que l'éducatrice venait ce jour-là, qu'elle a dû être hospitalisée, et là ça a été un changement de décor radical. Et là, moi j'ai pu noter un acharnement, quelque chose qui s'était mis en place et dont elle n'aurait de cesse que d'arriver à ses fins, c'est-à-dire le placement. Et là, sur l'année qui a suivi, c'était vraiment ça dans sa bouche tout le temps. C'était « mais vos enfants vont être placés ».
Vous vous êtes positionnée comme personne ressource en cas de besoin.
Ah ben oui. En fait, c'est ce que je faisais depuis longtemps. Ça posait de problème à personne. Les directeurs me connaissaient. Là. Bon, j'avais un poste d'infirmière scolaire, ce qui collait bien à la situation, puisque j'avais les horaires scolaires, les vacances scolaires. Enfin, et puis les enfants heureux d'être là. Chaque fois qu'il y avait un problème, eh ben, ils venaient là, ils allaient à l'école. Et puis la maman se rétablissait et on continuait notre vie. Ben voilà, il y avait pas, c'était pas extraordinaire. Hein. Une maman malade, c'est pas extraordinaire. Hein. Surtout quand il y a du relais, c'était pas, il n'y avait rien de caché. Les enfants allaient bien, il n'y avait pas de soucis. Mais cette dame, elle, chaque fois qu'elle venait, elle distillait son venin. C'était, oui, mais le placement, on va faire vous y préparer. Et c'est vrai que ma fille, qui à un moment donné n'allait pas bien, eh ben, qu'est-ce qu'elle entendait ? Il va falloir vous préparer au placement. Mais comment on se prépare au placement ? Comment on peut se préparer ? Une maman peut se préparer à voir enlever ses enfants. Ça n'avait pour effet que de la faire aller plus mal. Et il faut savoir que les éducateurs, alors j'espère que ça changera, ils font leur rapport dans leur coin. Il n'y a pas une double écoute, il n'y a pas un double regard. Et j'avais beau essayer de lui dire, je vais appeler votre chef, tout est bloqué. C'était elle qui avait en charge du dossier. Et c'était elle, uniquement elle.
Un jour, ce sont les gendarmes qui vous ont appelé.
Oui, alors ma fille m'avait appelé dans la semaine, en me disant « Maman, je vais vraiment trop mal, il faut que tu prennes les enfants, je vais me faire hospitaliser, je vais pas bien. » Donc, on commençait à mettre en place les choses et j'avais ma petite-fille à la maison. Et mon petit-fils était avec son père, donc il était parti. Et quand il l'a ramené, moi, je savais pas que le père allait monter. Et ça s'est mal passé et les voisins ont appelé les gendarmes. Je fais pas de reproche aux gens, sauf que derrière, ça a été, 6h30, on vous réveille... Voilà, votre fille est au poste, vous venez, je suis allée, je récupère le petit, et puis là, ça s'enchaîne, mais à une vitesse folle, il n'y a plus rien qui les arrête, on ne vous explique rien, On ne vous épargne rien, de toute façon. C'est comme si on était des criminels. On vous ouvre la maison à 6h30, hein, comme les perquisitions. Hein, c'est... Et puis après, on vous emmène voir un autre type. Et vous ne savez même pas qui il est, qui prend la gamine à l'écart et qui l'enregistre pendant 2 heures. Et vous n'avez accès à rien. Vous ne savez même pas ce qui se dit. J'ai trouvé ma petite fille assise sur une chaise, en larmes, les cheveux devant les yeux, qui pleurait. Mais je vais partir, on va partir. On est placé. Et moi, je me revois à genoux lui disant, je te promets, je te sors de là. Et puis vos petits-enfants, ben, vous ne les voyez même pas partir.
Il y a une chose qui vous a mise en colère, parmi d'autres, parmi beaucoup d'autres.
Colère, hein.
Mais il y a une chose qui vous a vraiment mise en colère, c'est le fait que votre petite-fille soit déscolarisée.
Alors, la scolarisation, c'est un des droits des enfants. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'ils ne vont plus à l'école. Alors, quand on les questionne, c'est compliqué. Alors, c'est vrai que c'est compliqué de prendre un véhicule et puis de faire 10 km pour amener quelqu'un à l'école. Alors, pour ma part, j'ai essayé de donner des tas de solutions. Payer un taxi, ça va vous coûter cher. Ça allait regarder en quoi j'aurais dépensé des millions pour ça. Bien, ce qui m'interroge, c'est que l'éducation nationale, bien évidemment, est bien complice de ça. Parce que j'ai appelé le service des absences pour savoir si ma petite fille avait été notée absente. Aucune absence de ses enfants n'est marquée. C'est-à-dire qu'à l'instant T, l'enfant part de l'établissement où il est scolarisé, personne ne s'en préoccupe. Donc, il est oublié. Et là, j'avais proposé des solutions. Mon directeur d'établissement avait même averti l'autre éducatrice de l'établissement qui était à côté, à proximité du foyer, pour qu'elle aille tout de suite, à l'instant T, dans cet établissement. Et bien, ça m'a été refusé. Donc, elle n'allait pas à l'école. Elle est en 5e, quand même.
Et qu'est-ce qu'elle faisait à la place?
Rien. L'ennui, et puis moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Et puis on va perdre ses bases à l'école, et puis on va se retrouver en échec scolaire. Mais l'échec scolaire est favorisé par ça, par ce placement-là. Ce ne sont pas des enfants idiots qui sont placés, c'est des enfants intelligents. Moi j'en ai dans mon établissement, je me bagarre pour qu'ils passent au lycée, et j'en ai qui réussissent, mais à quel prix ? Quand ils viennent me dire, ça crie tout le temps, on n'a pas de chambre individuelle, et puis on n'a pas accès à Internet, ils n'ont pas les mêmes accès à Internet que les autres, il faut le savoir. C'est insensé, j'ai pas de mots par rapport à ça, moi j'ai pas de mots.
Malgré tout le gâchis qu'il y a eu pour votre famille, est-ce que vous diriez que cette expérience, elle a quand même, par certains côtés, été bénéfique ?
Moi je dirais que... Avoir retiré les enfants à ma fille, oui, c'était nécessaire. Ça, on en a bien conscience, les enfants, ma fille et moi. On est d'accord, il fallait retirer pour qu'elle puisse aller se soigner. Parce que les gens malades, fragiles, en plus c'est compliqué de se dire je vais me faire hospitaliser, je ne vais pas être avec mes enfants. Pour une maman, c'est terrible ça. Donc la décision, il fallait qu'elle soit prise par quelqu'un d'autre. Là, je dirais que c'est le côté positif. Le côté noir, c'est le placement. C'est comment il s'opère. On rencontre l'enfer en face. Et quand on a déjà l'enfer avec la maladie, parce que c'est douloureux pour tout le monde, et qu'au lieu de nous accompagner, qu'on trouve un autre enfer, et moi là j'ai découvert, mais l'inimaginable quand même, mais c'est ça que je veux qu'il change, et je suis persuadée qu'on peut le changer. Moi je pense que le manque d'éducation, le manque de soins, le manque d'amour, c'est ça qui mène les gens à aller mal. Et on enlève les droits fondamentaux de l'être humain. Il n'y a plus de câlin. Hein, et moi, on ne les a pas pris dans les bras. Quand mon petit-fils ne mangeait pas, on ne l'a pas câliné. Hein. Il n'y avait pas, tu te reposes mon petit. Hein, c'est, oui, tu as mal aux dents, tu as une cellulite dentaire, il y a eu un scanner cérébral quand même. Et le lendemain, il fallait le ramener hein, à 8h le matin. Hein. Vous savez, ce qui nous envahit le plus, c'est la honte, la culpabilité. Moi, je me suis sentie coupable de ne pas les avoir pu les garder, de ne pas avoir pu les faire échapper à ça. Et j'ai passé des nuits à d'abord avoir peur, à pleurer, à... et puis voilà, à envier les gens dans la rue. Je ne serais jamais vue envier des gens dans la rue avec leur matelas par terre, mais leur gamin dans les bras.
Certaines familles vont pouvoir comprendre, d'autres vont être dans le déni.
Reba Moulin, assistante socio-éducative à l'aide sociale à l'enfance de Paris.
D'autres vont être très en colère de cette situation. L'arrachement est insupportable, hein, mais pour tout parent finalement, on leur explique aussi qu'on est là pour remédier à cette situation et qu'on va mettre tous les moyens nécessaires pour pouvoir les accompagner dans leurs problématiques et surtout les accompagner pour récupérer leur enfant. Après, effectivement, ça va prendre du temps. Le juge des enfants, quand il rend une décision, elle est la première ordonnance de placement provisoire et de 6 mois. Donc la période de 6 mois nous donne quand même le temps déjà à l'enfant de se poser dans une structure et donne le temps à tous les professionnels et aux partenaires de pouvoir travailler avec cet enfant, avec sa famille et d'apporter des éléments complémentaires au juge des enfants pour qu'il prenne une décision à l'issue de cette première ordonnance de placement. Sachant qu'on n'attend pas forcément les 6 mois de l'ordonnance de placement provisoire pour donner des éléments au juge, puisque certains placements peuvent prendre fin avant, selon les éléments qu'on va apporter au fur et à mesure. On fait beaucoup de notes d'information au juge des enfants pour le tenir informé de l'évolution de la situation. Si vous voulez, on va partir de la particularité de chaque enfant, de chaque famille, de chaque situation, et des évaluations qui sont faites. On va demander le concours du scolaire et de tous les partenaires. Et tous ces éléments mis bout à bout vont pouvoir nous aiguiller sur la nécessité d'un maintien ou pas du placement ou la nécessité d'y mettre fin.
On bricole beaucoup.
Ah oui, on bricole beaucoup. Ça, on bricole beaucoup parce qu'il n'y a pas de solution toute faite dans des situations comme ça. On ne pourra jamais rentrer un enfant dans un dispositif et que ce dispositif lui aille comme un gant. Les enfants, ils sont tous différents et puis leur situation est très changeante. Les familles vont nous solliciter sur différents points. Donc effectivement, on va beaucoup bricoler, comme vous dites, pour essayer d'être au plus près des besoins et pour apporter la meilleure réponse possible.
Dans la mesure du possible, le but, c'est que l'enfant puisse retourner dans sa famille.
Oui, moi, j'ai eu cet honneur-là de pouvoir restituer des enfants à leurs parents et que les familles aient fait un travail formidable pour pouvoir récupérer leur enfant. Moi, j'ai accompagné récemment un retour de 2 enfants au domicile parental. Une maman qui était en grande souffrance psychologique et qui a dû être hospitalisée en psychiatrie, ce qui arrive assez régulièrement quand même sur notre secteur d'intervention. Et la psychiatrie a fait son travail de son côté, de pouvoir soigner cette mère et l'accompagner vers un retour progressif à son domicile, pendant que nous faisions le travail avec les enfants, en lien avec cette maman d'abord, avec des visites dans le foyer d'accueil. Ensuite avec des temps d'hébergement chez la maman. Et c'est le retour progressif de la maman à son domicile et le retour progressif finalement des enfants. Et puis le travail fait par les uns et par les autres qui a permis effectivement au bout de 6 mois à ce qu'elles puissent regagner leur domicile. Et nous en amont, on a travaillé avec cette maman, on lui a proposé une aide éducative à domicile pour qu'il y ait un glissement du placement vers le domicile sans qu'elle se retrouve en difficulté avec ses enfants. Avant la fin de la mesure de placement, nous avons sollicité un service d'aide éducative à domicile avec lequel nous avons travaillé sur ce que nous appelons un tuilage. Donc cette maman a été d'accord, les jeunes filles aussi, et ça s'est très bien passé. Oui. 6 mois, c'est très long pour les familles, mais dans un travail d'accompagnement, il faut ce temps-là aussi pour les enfants. Et il faut ce temps-là pour qu'ils ne reviennent pas en placement, parce que ça, c'est important. Un retour bien préparé vaut mieux qu'un retour précipité et que l'enfant a déjà vécu cette première rupture de son lieu d'accueil, ce premier arrachement. Ça laissera des séquelles, forcément, et on ne veut pas lui faire revivre la même chose. Donc c'est vrai qu'il faut garantir, on essaye au mieux de garantir le retour et sa pérennité, oui.
En cas de placement, les enfants peuvent aller en foyer ou en famille d'accueil. Mais les départements n'arrivent pas à recruter autant d'assistantes familiales qu'ils le voudraient. D'abord, il faut correspondre au profil. Et ensuite, il faut accepter les aléas de ce métier très particulier qui ne laisse pas de place à la vie privée.
Alors nous, on est plus que pas écoutés, on est infantilisés. C'est-à-dire privés de parole.
Pendant 17 ans, Monique Régis a accueilli des enfants chez elle. Cette femme très engagée est fière d'avoir participé à un dispositif innovant, le réseau ADO, initié dans le Gard par des assistantes familiales. Mais elle a perdu beaucoup d'illusions et trouve que l'aide sociale à l'enfance marche parfois sur la tête, au détriment des enfants. Arrivée à la retraite, Monique rompt le secret professionnel pour dire ce qu'elle a sur le cœur.
On est trop seuls, nous, chez nous, dans les familles d'accueil normales, on va dire. on manque beaucoup de réflexion sur le travail en binôme ou avec plusieurs, comme ça, plusieurs familles d'accueil, où on pourrait éviter justement les à-coups. Souvent, comme les services sociaux n'ont pas de solution, qu'ils ont beaucoup d'enfants, qu'ils ne savent pas où les mettre, c'est plus du casage qu'autre chose, souvent, eh bien, on joue la montre, c'est-à-dire que tant que la famille d'accueil tient le coup, on laisse l'enfant, malgré tout ce qui se passe, malgré les dangers, malgré tout ça, et puis jusqu'à l'accident, et puis quand l'accident arrive, de toute façon, ben oui, effectivement, on change, mais c'est souvent la famille d'accueil qui est accusée de l'échec, jamais l'équipe. Bon, je vais vous donner l'exemple de quand j'ai été attaquée physiquement. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'en ai jamais voulu au jeune, parce que je pense qu'il a... Si ça s'est passé, c'est parce qu'il y a eu une faute professionnelle de la part du travailleur social. C'est un jeune qui m'a attaqué. On était dans sa chambre, j'étais allée rechercher quelque chose qui m'appartenait, et que ça faisait une semaine que je lui demandais qu'il ne me rendait pas. Donc il m'a frappée, il m'a beaucoup bousculée, et après il a commencé à m'étrangler. Alors c'était le soir, j'avais un plus jeune qui était couché, qui avait 5 ans, et je voulais pas du tout crier parce que j'avais peur de le réveiller. On a des drôles d'idées de temps en temps. Et puis j'avais aussi mon fils qui avait 14 ans, qui était en bas, qui regardait la télé. Je ne voulais pas qu'il soit mêlé à ça, justement, je voulais le protéger et qu'il ne se rende pas compte de ce qui était en train de se passer. Mais quand même, quand il a commencé à serrer ses mains sur mon cou, je me suis dit... Là, Monique, il vaudrait quand même mieux que tu signales qu'il y a un problème. Donc, je me suis mis à crier pas trop fort. Et mon mari, qui n'était pas très loin, heureusement, est arrivé dans la chambre. Il n'a pas eu besoin d'intervenir parce que ce jeune a été sûrement très battu par des hommes. Et il n'avait pas peur des femmes, mais il avait peur des hommes. Et du coup, quand mon mari est rentré, il a lâché prise. Ce jeune, depuis qu'il était arrivé, ne voulait pas être en famille d'accueil. Il ne m'a pas attaqué parce qu'il ne m'aimait pas ou un truc comme ça. Il voulait obtenir de ne plus être chez moi. Il voulait partir. Et ça, le travailleur social ne voulait pas l'entendre. Donc, il a fallu qu'il aille jusqu'à m'agresser pour pouvoir obtenir du travailleur social de pouvoir partir de chez moi.
Et donc là, vous avez signalé l'incident ?
Oui. J'ai dit, de toute façon, moi, je ne peux pas m'occuper d'un jeune dont j'ai peur. Donc le lendemain matin, d'ailleurs je n'osais même plus le voir, il est parti à l'école et j'ai ramassé toutes ses affaires et j'ai téléphoné au travailleur social qui me dit « Ah, mais les choses ne se passent pas comme ça, on va voir, il faut qu'on fasse une réunion, là, voilà. » Donc j'ai dit « Ah, mais il n'est pas question, hein. c'est aujourd'hui. » Et j'ai été très réprimandée d'avoir arrêté cet accueil dans ces conditions-là. Mais là, c'était trop, c'était trop, on ne pouvait pas.
Et on ne vous a pas demandé comment vous vous sentiez ?
Ah non, 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 ça, pas du tout, non, non, non. La réflexion du chef de service a été de me dire, avec vous, il y a toujours des histoires, voilà. Nous, ce qui se passe à la maison, ça, c'est jamais grave, c'est normal, on est payé pour ça, quoi, en gros. Comme dit mon mari, vous êtes le couteau suisse pas cher. On est multifonction, on doit tout savoir gérer, on doit être à la fois... aimant, etc., mais pas trop dans l'affectif non plus, parce que par exemple, on n'a pas le droit d'avoir des émotions, hein, quand vous avez, ce qui m'est arrivé, hein, une jeune qui se fout les veines chez vous, personne, ça ne vient à l'idée de personne de dire « comment va l'assistante familiale ?» C'est pas dans... Enfin, ils n'ont pas le temps de ça. Moi, je reconnais quand même que les travailleurs sociaux sur le terrain, ils sont quand même débordés. Et ils sont, je pense, très encombrés de beaucoup de paperasses, de dossiers, de choses comme ça. Et ils ont du mal à pouvoir s'occuper que de ce pour quoi ils sont faits, c'est-à-dire le terrain quand même. Hein.
Comme la jeune fille accueillie par Monique, Magali s'est ouvert les veines plus d'une fois. Pas pour se suicider, explique-t-elle, pour se sentir en vie. Et en voyant le sang couler, elle se disait « J'existe, c'est juste que je ne mérite pas d'attention ». À force d'être invisible, Magali s'est retrouvée à la rue à 18 ans, sans ressources, sans diplôme. Elle a parfois trouvé refuge chez des amis, dont les parents sont devenus, comme elle dit, ses familles d'accueil. Elle s'est démenée pour devenir styliste, tatoueuse, charpentier, mais à chaque fois elle a dû renoncer à ses métiers à cause de ses soucis de santé ou de ses difficultés relationnelles.
Je mets toujours une barrière entre moi et les gens, et entre Rousselane aussi et les gens, parce que c'est toujours des dangers potentiels, quoi.
dans un magasin des fois même, hein, ça peut être ridicule. Si j'y suis jamais allée avant et que je suis pas accompagnée par exemple d'une personne de confiance pour franchir la porte d'un magasin, des fois il y a des portes qui sont fermées et on voit pas l'intérieur, je vais pas y aller parce que spontanément je me dis ça sent pas bon, il y a des gens que je connais pas et ça me donne pas envie d'y aller quoi. Pourtant je le sais, je suis bien consciente de ça, mais ça change pas le fait que j'ai toujours une grosse méfiance et un gros a priori sur les personnes que je rencontrais quoi. Donc pas de vie sociale, ça me gêne pas hein. Mais j'ai bien conscience que, par exemple, pour le travail, c'est un gros frein.
Et au-delà de la méfiance en tant que telle, vous n'avez pas vraiment acquis les codes sociaux qui permettent d'avoir des relations habituelles.
Au niveau des codes sociaux, je vois bien que ça coince. On m'a bien fait comprendre qu'il y avait une manière de fonctionner, même dans l'entrée en contact avec les gens, qui n'était pas du tout adaptée avec ce que demande la société. Sauf qu'on ne m'explique pas ce qui cloche. On me dit ça, c'est pas bien, mais on ne me dit pas qu'est-ce qui devrait être bien, qu'est-ce qui est la norme. Ce qui complique vraiment les choses, ouais.
Et qui reste une frustration aujourd'hui.
Pas au quotidien, parce que moi je le vis très bien, hein, d'être seule dans mon monde. Enfin, l'île déserte est quelque chose qui me plaît vraiment bien, c'est pas un problème. Là où ça devient problématique, c'est pour tous les actes de la vie habituelle où il y a une interaction avec des gens. C'est-à-dire que ce soit pour une demande de formation à Pôle emploi, que ce soit les rencontres parents-professeurs, que ce soit aller à la piscine avec mon fils et devoir payer un billet. Enfin, c'est gênant, c'est frustrant et c'est des choses que j'ai peur de transmettre aussi à mon fils parce que quand on n'a pas les codes, on fait comment pour transmettre les codes? Ouais, je sais pas du tout, quoi. Je vois bien par exemple que lui il est très sociable, mais que du coup c'est un manque parce que moi j'ai détecté très tard qu'il était sociable, quand c'était déjà une souffrance, donc ça fait mal de pas s'être rendu compte de ça avant. Et du coup, par exemple d'être arrivée ici, de m'apercevoir au bout de 2 ans qu'il était pas bien, parce qu'en fait je m'étais pas rendu compte, mais il n'y a pas d'enfant autour, et que pour lui c'était compliqué. C'est même pas quelque chose qui m'a effleuré l'esprit, quoi. Donc ouais, j'ai l'impression d'être... pas toujours à la hauteur, ouais. Par rapport à lui. Après, mon mari, c'est un adulte, ça me touche beaucoup moins. Je veux dire, je l'aime, mais s'il a des problèmes, c'est à lui de les gérer, quoi. C'est un grand garçon, je suis pas sa mère. Alors que Ruslan, je suis sa mère, donc c'est à moi de le protéger. Et il y a des fois, je me dis, d'accord, c'est à moi de le protéger, mais qui c'est qui le protège de moi dans ces cas-là? De mes failles, de mes failles.
Écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture, La protection de l'enfance à l'épreuve du quotidien. C'est un magazine signé Aurélie Kiefer et réalisé par Annie Brault. Alors nous sommes toujours avec nos deux invités, Jean-Paul Raymond qui pilote la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé à Paris et Nadège Sévrac qui est sociologue. Une première question peut-être à vous, madame. On vient d'entendre, bon, il y a beaucoup de témoignages dans le reportage d'Aurélie, mais on voulait peut-être s'arrêter sur celui de Magali qu'on vient d'entendre à la fin, qui parle justement des codes sociaux qui ont manqué pendant toute sa jeunesse. Et elle s'inquiète beaucoup de ne pas arriver à les transmettre à son enfant. Et on souhaitait savoir si finalement ces placements d'enfants sont récurrents dans les familles. Est-ce que de génération en génération, on trouve des enfants placés dont les parents eux-mêmes étaient placés et qui ont effectivement un certain nombre de carences?
Alors, d'abord, je voulais commencer par vous remercier pour ce reportage qui donne une vision assez complète des points de vue des différents acteurs qui sont partie prenante de ce dispositif assez compliqué, c'est vrai. Pour répondre à votre question première, qui est une question de piège aussi, puisque en France, on n'a pas de données chiffrées de ce type, hein, il faut se tourner vers l'international. Du coup, je ne pourrais pas vous répondre avec précision sur cet aspect-là. On sait juste qu'effectivement, il y a une part de reproduction intergénérationnelle, puisque ça pose la question de l'efficacité des prises en charge. Et on voit que même les enfants qui ont été protégés, ils le sont dans des contextes qui, quelque part, n'atteignent pas tout à fait ni les problématiques de leurs parents, ni leurs propres problématiques à eux. Ce qui amène ensuite la possibilité d'une reproduction intergénérationnelle. On dit que ces enfants-là, ils sont plus à risque que les autres. Mais il ne faut pas du tout y voir quelque chose de déterministe.
Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites on n'atteint pas leurs problématiques?
Je trouve que le reportage, il est très intéressant parce qu'il montre bien le caractère très difficile de cette politique publique en particulier. C'est-à-dire qu'on affronte quand même ce qu'il y a de plus dur, je trouve, sur cette planète Terre, c'est-à-dire les situations où les parents ne sont pas en mesure, pour tout un tas de raisons, de prendre en charge leurs enfants et de les faire grandir comme ces enfants-là en auraient besoin. Et du coup, on affronte là quelque chose qui est très difficile à penser et contre lequel on est tenté de se défendre. Bien que les travailleurs sociaux, eux, pour pouvoir rejoindre des familles dans les difficultés, ne puissent pas s'en défendre. Et on voit bien dans ce que raconte la grand-mère qu'en fait, ils peuvent être tentés de le faire et d'intervenir violemment dans la famille. Et ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que c'est une administration qui prend en charge les situations compliquées de ces familles-là et que c'est un exercice quasiment impossible pour une administration qui intervient mieux toujours sur des politiques de prestations ou sur des prises en charge ponctuelles, des accompagnements ponctuels. Mais là, on demande à une administration et à des professionnels dans une organisation du travail assez contrainte de prendre en charge la vie entière de ces enfants, ce qui pose tout un tas de problèmes en termes d'attachement, d'affectivité, qu'on voit ensuite dans la vie des adultes.
Une question d'Aurélie qui fait.
Oui, Jean-Paul Raymond, justement, on sent une certaine incompréhension du système par les familles. Comment réussir à passer ce cap, en fait, à mieux dialoguer entre travailleurs sociaux et les familles, et même d'ailleurs les enfants, les bénéficiaires. Hélène Join-Lambert, que j'ai rencontrée, qui dirige le département des sciences de l'éducation à l'Université de Paris-Nanterre, dit qu'encore aujourd'hui, ils se sentent peu écoutés et ils subissent plutôt les mesures prises pour les protéger.
Alors, on voit bien à travers l'ensemble des témoignages qu'on a pu entendre que c'est un exercice extrêmement difficile. D'abord, on est sur des choses extrêmement importantes pour les familles, pour les personnes, au plan personnel. C'est plein d'affects, c'est plein de culpabilité. Donc il faut qu'on arrive, dans le cadre de l'accompagnement, à dépasser ces freins-là, pour être... D'ailleurs, je trouve que l'illustration de la collègue des apprentis d'Auteuil était très, très bonne à ce titre-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire avec, il faut être au plus près. Je pense qu'il y a des... Il y a quelque chose qui est assez novateur quand même dans ce domaine-là, c'est cette notion du faire avec. Et je pense que ça permet aussi de casser un peu la glace.
Vous voulez dire qu'avant, comprendre. On faisait sans les familles ou...
Non, il y a toujours eu une implication des familles, mais avec plus ou moins de réussite dans ce domaine-là. Je crois que la loi de 2016 est venue, celle de 2007 et celle de 2016 sont venues renforcer, en tout cas, cet aspect-là, et surtout la participation et l'implication des enfants eux-mêmes, des jeunes eux-mêmes, dans la prévision de leur propre destinée. Et je trouve que ça, c'est extrêmement important. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on est toujours quand même dans une politique publique, comme vous le disiez, qui est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Mais je pense que si on arrive à mettre en place la loi de 2016, réellement, je pense qu'il y a des choses extrêmement bonnes dans cette loi qui vont nous permettre d'évoluer, que ce soit le projet pour l'enfant, par exemple, qui est essentiel. Mais on sait qu'il a du mal à se mettre en place parce que c'est des questions d'organisation, c'est des questions de disponibilité des professionnels aussi. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas une discussion autour du projet, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on demande aussi une formalisation plus précise. Et cette formalisation, c'est une exigence supplémentaire, en tout cas, qui peut apporter quelque chose de plus. Après, il y a des départements qui développent des tas de techniques aujourd'hui pour essayer de rencontrer beaucoup plus les familles. Il y a des rassemblements qui peuvent se faire à un moment donné, mais on sait, en tout cas, qu'avec les familles qui sont concernées par la protection de l'enfance, eh bien, c'est assez compliqué. D'abord, il y a les questions des droits, il y a les questions de ce partage de droits entre les institutions et puis et les familles eux-mêmes. Voilà, ça en rajoute, si vous voulez, à la complexité, évidemment, pour pouvoir être dans une relation beaucoup plus constructive.
Vous parliez du projet pour l'enfant. C'est vrai qu'il y a cette volonté d'essayer de stabiliser les parcours, de se projeter un peu plus dans l'avenir. Mais c'est extrêmement compliqué, puisque les situations, elles évoluent. On essaye de les adapter. Et puis, bon, il y a de fait des ruptures parfois obligées. Donc, c'est vraiment un exercice...
Alors, quand vous parlez des ruptures...
Jean-Paul Raymond.
Pardon.
Je vous en prie.
Je suis désolé.
Je pense qu'Aurélie s'adressait à vous, je crois.
Oui, je crois. Quand vous parlez des ruptures, je pense que c'est le point extrêmement le plus sensible. C'est le, de ces parcours qui sont extrêmement compliqués, qui sont très diversifiés. De toute façon, pour l'ensemble des départements de France aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas un schéma de protection de l'enfance qui ne contient pas des mesures spécifiques dans le domaine de la réduction des ruptures. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel et on a quand même beaucoup progressé dans ce domaine-là. Moi, je suis toujours un peu stupéfait quand je vois des témoignages, en tout cas, qui témoignent de ruptures conséquentes. C'est vrai, mais c'est un combat permanent pour éviter les ruptures. Quand on parle du référencement aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un professionnel qui devrait, en théorie, être le référent de l'enfant, quel que soit l'endroit où l'enfant est placé, qu'il soit auprès d'une assistante familiale ou qu'il soit dans un établissement. Il faut qu'à un moment donné, ce jeune, il puisse avoir un point de repère. C'est un peu son point de repère pour la vie, quoi.
Et, enfin, dans le témoignage de la grand-mère, on avait quand même l'impression justement qu'il y avait un seul référent et que c'était un gros problème pour sa fille dont les enfants ont été placés. Nadège, c'est vrai, à propos de la parole de l'enfant, vous êtes spécialiste quand même de l'enfance maltraitée. Est-ce qu'on les écoute assez, ces enfants? Est-ce qu'il faudrait qu'on les écoute plus? Vous avez l'impression qu'ils sont pris en compte mieux qu'avant?
Ils sont certainement mieux pris en compte qu'avant, dans une certaine mesure. Après, je pense qu'on réalise mal à quel point on est actuellement dans une situation tendue dans le dispositif. Ce que disait l'assistante familiale, c'est exact, c'est-à-dire qu'on manque beaucoup de places. On a aussi toute la question des établissements
de places en famille, vous voulez dire,
ou de places partout dans le dispositif. Je pense qu'il y a des files d'attente, on le sait, ce qui n'est pas sans poser question au titre du danger qu'encourent les enfants qui peuvent avoir une mesure de placement prononcée par un juge qui n'est pas mise en exécution faute de place. Et il y a de nombreux départements qui se trouvent dans ces situations-là.
Oui, j'ai perdu le fil. Mais je vous demandais si on entend, on écoute assez.
Si on les écoute, alors il y a deux configurations. En établissement, c'est toujours assez compliqué parce qu'on est en flux tendu et on a des collectifs d'enfants. Donc déjà d'écouter chaque enfant individuellement dans une situation de collectif d'enfants, Magali, elle le disait bien, c'est-à-dire qu'on est un peu perdu dans la masse, même si on essaye d'individualiser les parcours. Mais après, la réalité du terrain fait que c'est limité. Et dans les familles d'accueil, ça pose un problème de non seulement l'écoute de l'enfant, mais aussi de la famille d'accueil, ce que la personne expliquait bien, pour des raisons à la fois de surcharge mais aussi de représentation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se voiler la face sur le fait qu'il y a beaucoup de rapports de force dans ces univers-là et que plus on est près de l'enfant, et les assistants familiaux sont plutôt des femmes, plutôt des professionnels moins qualifiés que les autres, et donc ils ont tendance, ce qu'elle disait est tout à fait exact, c'est-à-dire ils ont tendance à être infantilisés et on les écoute peu. Et donc c'est vrai qu'on a quand même une marge de progression assez considérable à réaliser pour améliorer le dispositif substantiellement.
Jean-Paul Raymond voulait ajouter quelque chose.
Oui, c'est les généralités qui me posent problème, si vous voulez, parce qu'on a quelques témoignages ici, et c'est vrai que chaque fois qu'on médiatise un peu la protection de l'enfance, on a tendance quand même à généraliser, mais... Enfin, quand on imagine quand même qu'il y a 323 000 mesures qui sont mises en place au niveau national, qu'il y a 160 000 enfants qui sont confiés, 160 000 mesures qui sont faites au domicile des parents, enfin, faut voir quand même la richesse de notre système national aujourd'hui pour pouvoir essayer de préserver. Donc, généraliser, et c'est souvent effectivement des témoignages qui sont un petit peu à charge ou qui sont compliqués.
En tout cas, parce que
c'est des témoignages qui sont durs, et moi je ne remets pas en cause l'authenticité de ces témoignages parce que je crois que les gens sont vraiment sincères. En même temps, j'imagine derrière tout le travail qui a dû être fait aussi au niveau des professionnels. Enfin, j'en suis témoin quand même tous les jours. Les discussions qu'il peut y avoir entre professionnels, comment ils, parfois, excusez-moi l'expression, mais ils se prennent la tête à plusieurs professionnels pour arriver à trouver la bonne solution. Et c'est des discussions, ils testent quelque chose, ils recherchent un établissement, ils recherchent une place, ça marche pas, ils reviennent à la charge, ils en rediscutent. C'est quand même extrêmement compliqué de trouver des solutions. Donc la généralisation sur le fait que les assistants familiaux soient isolés, je pense que effectivement dans certaines conditions, un certain nombre d'assistants familiaux...
Donc ce ne serait pas le cas à Paris.
Non, je n'ai pas dit que ce n'était forcément pas le cas à Paris. Je dis qu'il peut y en avoir à Paris comme il peut y en avoir ailleurs. Mais je pense qu'on ne peut pas non plus généraliser quand on voit tous les moyens qu'on met à côté pour accompagner l'ensemble de ces professionnels aussi.
Nadège Sévrac.
Alors c'est marrant parce que moi je vois les choses à partir de l'autre bout de la focale, c'est-à-dire que on a quand même un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites en incluant les usagers, les professionnels, les enfants, les parents. Et ce qui ressort, c'est plutôt ça. C'est pour ça que je parlais au début d'organisation professionnelle du travail. C'est-à-dire qu'on rencontre des choses qui se rencontrent partout dans les univers de travail, sauf qu'en protection de l'enfance, comme on gère la vie des gens, ça a un impact particulier. Et de fait, même si les professionnels se prennent la tête, il y a un fossé entre la perception que les professionnels peuvent avoir de leur travail et les enfants. Les enfants l'expliquent très bien en disant, nous, la fin de la journée, les professionnels, on sait qu'ils ont des heures de bureau, à un moment, il faut qu'ils rentrent chez eux, leur travail s'arrête et ils ont une vie. Nous, l'ASE, c'est toute notre vie. Et je pense que là, on réalise à quel point il y a deux points de vue radicalement différents et à quel point les enfants et les familles peuvent avoir des attentes qui sont quelque part incommensurables. Et même quand les professionnels se prennent la tête, il y a toujours quelque chose d'un point de vue qui reste radicalement différent, séparé. Et je pense qu'il... Moi, je pense qu'il y a une marge d'amélioration considérable à autoriser les professionnels à être un peu moins pro, un peu plus dans les émotions, dans la proximité. Elle le dit à un moment, hein, la personne des apprentis d'Auteuil, on est dans la bonne proximité plutôt que la bonne distance. Et ça, c'est une acculturation qu'on commence à peine à faire.
Mmh. Alors, petite parenthèse.
Question d'Aurélie.
Je crois que les enfants et leurs parents ont eux aussi un... Dans une famille normale, entre guillemets, il y a toujours ce décalage aussi entre la perception des parents et celle des enfants. Une des difficultés de l'aide aux enfants, c'est le temps qui est limité pour les accompagner, pour les préparer à devenir adultes, puisque à un moment, il y a quand même le saut dans l'inconnu. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui, Jean-Paul Raymond, à sécuriser ces parcours pour que des jeunes majeurs, qui pourtant ont eu derrière eux un parcours quand même assez compliqué, difficile et donc des failles, pour qu'ils soient suffisamment costauds ensuite pour se débrouiller.
Je dis juste qu'on peut les suivre jusqu'à l'âge de 21 ans.
Oui, on peut les suivre jusqu'à l'âge de 21 ans. D'abord, ça ne se prépare pas une fois qu'ils sont jeunes majeurs, ça se prépare bien avant. Et c'est vraiment la question de leur insertion sociale et professionnelle. Et finalement, ils sont confrontés aux mêmes questions que les autres enfants, je dirais, de la population française. Il n'y a pas de différence par rapport à ça. Par contre, effectivement, il y a moins de filets de sécurité, puisque ces jeunes-là... Je pense que ce qui leur pose le plus de problèmes, c'est qu'ils n'ont pas les réseaux, qui sont des réseaux parentaux et qui servent énormément pour l'insertion professionnelle, en tout cas, et aussi pour construire son parcours et construire sa destinée. Et c'est peut-être là qu'on a des choses à faire. Alors, par exemple, je vous donne un exemple précis. Et sur Paris, en tout cas, Dominique Versigny, en tant que maire adjointe, est extrêmement impliquée sur ce sujet-là. C'est sur l'insertion professionnelle. On considère que ça doit commencer très tôt. Et donc, il y a des relations qui ont été créées avec la mission locale de Paris, par exemple, pour que on puisse avoir des liens extrêmement privilégiés avec les référents futurs de la mission locale et pour qu'il y ait un lien qui se passe entre le moment de la majorité et le moment des 21 ans, si vous voulez, et la suite, pour éviter que, justement, on soit encore dans des ruptures. Parce que c'est vrai que pour la plupart des jeunes, une fois que l'aide sociale à l'enfance ne prend plus en charge, ça peut être une rupture. Qui plus est, il y a un certain nombre de départements, il faut bien le dire aujourd'hui, on rencontre aussi des difficultés budgétaires, financières, et ont été amenés à revoir aussi la question des jeunes majeurs, parce que c'est une des politiques, effectivement, qui est en tout cas tout à fait autorisée, mais pas forcément obligatoire, et sur lesquelles, parfois, ils n'ont pas les moyens de pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'ils voudraient faire, en tout cas. Voilà, et ça rejoint évidemment la question un peu plus globalement des financements, des capacités, et puis finalement, la possibilité, je dirais, un peu des budgets sociaux des départements pour pouvoir accompagner. Voilà, je crois qu'il y en a beaucoup qui voudraient faire beaucoup plus, mais qui ne peuvent pas aujourd'hui.
Nadège Sévrac, oui, sur cette question, cet âge charnière.
Donc concrètement, ça veut dire que là où ils sont quand même rien de commun avec nos propres enfants, c'est qu'on ne demande pas à nos enfants de décohabiter à 18 ans. Donc, comme disait Monsieur Raymond, il y a de plus en plus de difficultés pour les jeunes à obtenir des contrats jeunes majeurs qui leur permettent une prise en charge jusqu'à 21 ans. Et concrètement, il y en a beaucoup qui se retrouvent à la rue à 18 ans, puisque pour un certain nombre d'entre eux, ils ne peuvent plus retourner en famille avec des grosses difficultés. Alors, comme le disait Monsieur, ils n'ont pas de réseau, mais ça renvoie aussi à toute la prise en charge au moment où les jeunes étaient placés, parce qu'effectivement, ça se construit en amont. Et le fait qu'on puisse autoriser un certain attachement entre professionnelle, qu'elle soit assistante familiale ou éducateur, ça permet aussi aux adultes de s'investir dans une projection de ce jeune vers le futur. Quand on n'autorise pas ce lien proche, c'est cette projection et cette mobilisation des adultes qui se fait pas.
Mais parce que les jeunes doivent faire eux-mêmes un effort pour construire leur projet, c'est ça? Enfin, pourquoi certains se retrouvent à la rue?
Bien sûr, il y a concrètement le fait que c'est très paradoxal parce que c'est souvent des prises en charge très contraignantes que les jeunes vivent en établissement et du coup, on les enjoint, on leur dit, mais deviens autonome dans un contexte où ils n'ont aucun moyen concrètement d'exercer cette autonomie. Et du coup, on les
catapulte pour une bonne partie d'entre eux une partie croissante à 18 ans, alors qu'il n'y a qu'à regarder nos propres enfants, je ne sais pas combien d'entre eux sont prêts à 18 ans à voler de leurs propres ailes, logement, avoir une formation qui permet de subvenir à ses propres besoins. Enfin, c'est,
oui, 18 ans, c'est sûr que c'est très jeune.
C'est extrêmement précoce.
Oui.
Je voulais simplement rajouter que il existe des tas de systèmes aujourd'hui qui sont des systèmes très ancrés dans la société, comme des systèmes de parrainage, par exemple. Et c'est des choses qu'on essaie de développer aujourd'hui. C'est-à-dire que l'ASE a peut-être ce défaut, à un moment donné, d'essayer de construire ses propres recettes elle-même et de ne pas, à un moment donné, de ne pas forcément s'adresser à l'ensemble de tout ce qui existe, de toutes ces ressources qui existent, les ressources de proximité. Mais le parrainage est une solution super intéressante quand on va chercher des seniors, comme c'est le cas à Paris, par exemple, pour essayer de les impliquer au profit de ces jeunes-là, pour leur permettre d'avoir des réseaux et des contacts avec les entreprises. Voilà. C'est typiquement des choses extrêmement importantes qu'on peut mettre en place. C'est très intéressant.
Il y a des passerelles à mettre en place, des coopérations avec d'autres professionnels issus de l'éducation, de la formation professionnelle.
Vous avez 30 secondes pour répondre.
Bien sûr, il y a vraiment des tas de passerelles, mais je crois que c'est un peu la question de l'ASE dans son ensemble, c'est-à-dire comment on fait une aide sociale à l'enfance qui soit un peu plus inclusive, qui soit plus préventive, plus inclusive, plus ancrée dans la société. Je pense que s'il y a des choses qui font qu'on réinvente aujourd'hui, c'est sans doute autour de ça, c'est-à-dire faire en sorte que l'ASE ne se construise pas sur l'ASE elle-même, mais qu'elle soit complètement ancrée dans la société et qu'on retrouve un peu tous ces liens quotidiens et ces liens permanents.
Voilà. Jean-Paul Raymond, Nadège Sévrac, merci d'avoir participé à ce magazine de la rédaction La protection de l'enfance à l'épreuve du quotidien. Reportage d'Aurélie Kiefer, réalisé par Annie Bro. À la technique ce soir, Yanis Djoudad, que je remercie aussi. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster et la commenter sur notre site franceculture.fr.